Vous écoutez On lit pour vous.
Une jambe bionique contrôlée par la pensée permet aux amputés de remarcher plus facilement et de manière naturelle. Un texte d'Antoine Ducard, publié le 2 juillet 2024 dans Science et Vie. Lorsque l'on est bien portant, on marche sans y penser. Avec cette jambe bionique, il est possible de retrouver une telle sensation lorsque l'on est amputé. Le 1er juillet 2024, des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, MIT, ont publié une étude dans la revue Nature Medicine. Celle-ci présente la possibilité pour les amputés de réapprendre à marcher naturellement en utilisant leur pensée et une jambe bionique. Des résultats jugés plutôt miraculeux par le professeur Yu He, l'auteur principal de l'étude. Une jambe bionique entièrement contrôlée par le cerveau. Cette jambe bionique, fruit du travail des chercheurs et des ingénieurs du MIT, peut donc être contrôlée par le cerveau. De fait, afin de permettre aux patients de marcher, elle est notamment reliée aux nerfs des muscles chargés du mouvement de la jambe. Ensuite, le membre prothétique est capable de lire les signaux d'activité résiduelle des muscles de la jambe pour activer la jambe. Dans des propos rapportés par le Guardian, l'auteur principal de l'étude ne cache pas son excitation et sa fierté quant à son invention. Personne n'a été capable de démontrer un tel niveau de contrôle cérébral qui produit une démarche naturelle, où c'est le système nerveux de l'homme qui contrôle le mouvement et non un algorithme de contrôle robotique. Non seulement ils pourront marcher sur une surface plane, mais ils pourront aussi faire des randonnées ou danser car ils auront le contrôle de leurs mouvements, pouvait-on lire dans les colonnes du quotidien britannique. L'histoire personnelle de Yu He. Yu He n'est pas un chercheur comme les autres et encore moins dans le cadre de cette étude. S'il est chercheur au MIT, il était aussi un fan d'escalade et cette passion lui a coûté ses deux jambes. En effet, le scientifique de 59 ans a été amputé de ses deux membres en 1982 lorsque, pendant une excursion d'escalade, il a été pris dans un blizzard qui lui a valu de très graves engelures au niveau des membres inférieurs. Ne pouvant sauver ses jambes, les médecins de l'époque avaient donc pris la décision de les lui retirer. Et s'il a réussi à mettre au point une telle jambe bionique, il espère bien en profiter lui aussi. Je pense me faire poser la prothèse bionique pour mes deux jambes dans les années à venir, déclarait-il au Guardian. Une prothèse qui fait partie de l'anatomie de la personne. Forcément impliqué dans le cas de cette étude, Yu He explique pourquoi une telle prothèse est révolutionnaire. Pour ce faire, il compare notamment une prothèse basique, sans électronique, à un simple outil pour les patients et pas comme un membre à part entière. En face de cela, quand la personne peut directement contrôler et ressentir le mouvement de la prothèse, elle devient une véritable partie de l'anatomie de la personne, précise-t-il au journal anglais. De plus, les résultats de l'étude montrent quelque chose d'intriguant. En effet, cette jambe bionique permettrait donc de remarcher naturellement et quasi tout aussi vite que des personnes bien portantes. Par rapport à une cohorte d'amputés appariés sans augmentation des afférences, la vitesse de marche maximale de la neuroprothèse est augmentée de 41%, ce qui permet d'atteindre des vitesses maximales équivalentes à celles des personnes sans amputation de la jambe, peut-on notamment lire au tout début de l'étude publiée dans Nature Medicine. Si l'étude portait surtout sur la possibilité de marcher à nouveau grâce à une jambe bionique contrôlée par le cerveau, les chercheurs du MIT précisent, dans le journal de l'Institut, qu'une telle avancée pourrait également s'appliquer aux amputations du bras. C'était « Une jambe bionique contrôlée par la pensée permet aux amputés de remarcher plus facilement et de manière naturelle », un texte d'Antoine Ducard, publié le 2 juillet 2024 dans Science et Vie.
Parlons vrai, un éditorial de Gwendoline Lebaumin, paru le 7 novembre 2024 dans L'Aurore boréale. Fin octobre dernier, Sabrina Jugno-Romano a donné une formation d'une journée sur les premiers soins en santé mentale au Centre de la Francophonie. Il était question de détecter les signes chez une personne qui rencontre possiblement un problème de santé mentale et comment s'y prendre pour apporter son aide. Pour elle, rien ne sert de tourner autour du pot. Dire les choses directement, avouer qu'on a vu des changements de comportement chez la personne et qu'on s'inquiète pour elle. Dans cet atelier, il a été question d'empathie et aussi tout simplement d'attention. Être attentif et attentive aux autres, poser la question réellement de comment ça va, prendre le temps d'accorder de l'attention aux gens, ça peut paraître parfois difficile dans nos quotidiens débordés. Néanmoins, ne pas laisser les gens sur le bas-côté, c'est aussi les respecter et les considérer. Soit sortir, faire une marche, s'asseoir avec la personne, aider, écouter, mais sans juger, ne pas jouer le docteur. On n'a de toute façon pas les compétences. Pourtant, on peut faire preuve d'empathie en assurant une présence, une écoute, une première étape pour venir en aide. Bien qu'il paraisse moins évident de prodiguer des conseils quand il s'agit de santé mentale, Sabrina Jugno-Romano rappelle qu'on est une communauté et que communiquer n'est pas chose nouvelle pour nous. C'est prendre soin des uns et des autres, un peu comme une chaîne de soutien. Les problèmes de santé mentale sont courants. La plupart des gens traversent des périodes de meilleure ou de moins bonne santé mentale au cours de leur vie. La dépression, l'anxiété, la dépendance à certaines substances ou activités peuvent toucher tout le monde. Cependant, certaines personnes peuvent éprouver des symptômes plus sévères, qui durent plus longtemps et affectent leur capacité à fonctionner au quotidien. Selon Statistique Canada, en 2022, plus de 5 millions de Canadiens et Canadiennes, 18 % âgés de 15 ans et plus, répondaient aux critères diagnostiques d'un trouble de l'humeur, d'anxiété ou de toxicomanie au cours des 12 mois précédents. La prévalence des troubles de l'humeur et de l'anxiété au Canada a augmenté entre 2012 et 2022. D'où l'importance de s'éduquer. C'est un premier pas. On évite ainsi les tabous, on en parle franchement et on se familiarise avec le vocabulaire, les façons de faire. Le jour du souvenir, le 11 novembre, on commémore les sacrifices de la Première Guerre mondiale ainsi que d'autres guerres. On célèbre la bravoure des soldats et soldates, leur dévouement pour la patrie, mais c'est aussi l'occasion de rappeler les conséquences sur la santé mentale de ces vétérans et vétéranes. Le retour à la vie quotidienne peut s'avérer difficile pour nombre de ces personnes. D'ailleurs, le stress post-traumatique peut provoquer une incapacité temporaire qui peut perdurer et se transformer en dépression sévère sans intervention appropriée. Et si le vrai sujet, ce n'était pas de remettre en question les conflits, tout simplement? Certaines de ces personnes se retrouvent en situation d'itinérance ou risquent de le devenir. Elles peuvent être victimes de stigmatisation. Cette situation est inacceptable, peu importe d'ailleurs qui elle touche. À ce propos, Sylvie Binette, franco-yukonaise, a campé devant l'Assemblée législative à Whitehorse la nuit du 24 au 25 octobre afin de sensibiliser et essayer de faire bouger le gouvernement pour mettre fin au sans-abrisme. Selon elle, Il est révoltant que des personnes doivent encore dormir dehors, dans un pays aussi riche et développé que le Canada. Une marche a également été organisée par la coalition anti-pauvreté du Yukon, au centre-ville de la capitale. Le 2 novembre dernier, la Diwali, la fête des Lumières, était célébrée par les personnes hindoues, sikhs, jaïnes et bouddhistes. Cet événement célèbre la victoire du bien sur le mal et l'importance de la connaissance face à l'ignorance. C'est une occasion de réfléchir, de se réinventer et de renforcer les liens au sein de la communauté. Cette fête prend tout son sens ici. Bref, la santé mentale, parlons-en, parlons vrai, même si c'est malaisant. S'éduquer, en parler, transmettre, pour qu'il soit plus facile de faire appel à de l'aide. Nous sommes chanceux et chanceuses qu'aujourd'hui les gens souffrant de problèmes de santé mentale ne soient pas traités de fous, mais bien pris au sérieux. Ces personnes peuvent être prises en charge par le corps médical et compter sur d'autres types de soutien. Ces services ne sont peut-être pas parfaits, mais ils sont là. Il est possible de remonter la pente, même si ça prend du temps. C'était, parlons vrai, un éditorial de Gwendoline Le Baumin, paru le 7 novembre 2024 dans l'Aurore boréale.
Une enseignante et son ambitieux projet. Un texte d'Éric Martel, paru le 11 novembre 2024 dans la presse. Il y a une étudiante du secondaire que je croise souvent. Elle était toujours retirée du groupe, ne parlait à personne. Mais depuis qu'il y a le skatepark, elle vient me voir. Elle me raconte sa vie. Elle me jase comme si personne ne la retenait. De voir l'engouement qu'un simple skatepark peut créer, moi, c'est ma paye. Ces mots, ce sont ceux d'Édith Lucier, une enseignante qui s'est donné la mission d'inaugurer un skatepark à Wemotassi. La communauté Atikamekw dans laquelle elle travaille, qui se trouve à 115 km de Latuk, la ville la plus près. Tout ce qui lie Wemotassi au reste du monde, c'est une route de gravier. Dans cette région éloignée, même le réseau cellulaire ne se pointe pas le nez. Puisqu'elle a toujours eu l'ambition de travailler au sein d'une communauté autochtone, Édith Lucier a commencé à y enseigner il y a de cela près de 5 ans. Avant sa première journée, elle n'avait aucune idée à quoi s'attendre du petit village de moins de 1200 habitants. Elle y a découvert une communauté attachante, mais dans laquelle les enfants semblaient s'ennuyer. Certains jeunes venaient cogner chez nous après les cours parce qu'ils ne trouvaient rien d'autre à faire, nous raconte la conseillère pédagogique aux écoles Seskitine et Nikanik. Alors qu'elle enseignait en 6e année, Mme Lucier a vu certains élèves commencer à consommer de l'alcool, à décrocher. Certains tombent dans le vandalisme, se désole-t-elle. Au cours des dernières années, j'ai vu plusieurs choses qu'on ne souhaite pas voir dans une école. Quand ça ne va pas bien à la maison ni à l'école, tu te retrouves bredouille. Tu n'as plus de source de motivation. De la motivation et un esprit de communauté, Édith Lucier en a trouvé dans sa propre vie grâce au skateboard. Je voulais leur offrir ce que moi j'ai eu, dit-elle. Créer un lieu de rassemblement dans lequel les filles se sentent à l'aise, où les gars peuvent venir se faire de nouveaux amis. Dans la communauté, outre la route principale, il n'y a pas de voie asphaltée. Pour faire de la planche à roulettes, il y avait donc 2 options. L'arrêt d'autobus scolaire ou rouler 1h30 en voiture jusqu'à Latuk pour bénéficier d'un peu plus d'espace. Le besoin de créer un skatepark était donc réel et s'est frayé un chemin dans l'esprit d'Édith Lucier. Mais ce chemin, comme celui qui mène à la communauté, allait s'avérer rocailleux. La création du skatepark allait donc devenir une deuxième job à temps plein. En tant qu'alloctone, tu ne peux pas juste débarquer dans une communauté et dire aux autres quoi faire. Il fallait que je comprenne leurs besoins, que j'expose mes idées. Je savais que c'était quelque chose qui n'allait pas se faire en 6 mois, et c'était correct. Je voulais éviter de m'imposer, assure Edith Lucier. Je voyais que ça les allumait. Pour s'assurer de l'intérêt des jeunes, l'enseignante a organisé une clinique de skateboard à Wemotassi avec des entraîneurs venus de Montréal. Devant le succès monstre de l'activité, elle a organisé une sortie à l'école de snowboard et skateboard du Saguenay. Je voyais que ça les allumait, qu'ils étaient contents de faire quelque chose de différent. Que ceux qui étaient dans leur coin, avec qui on ne savait pas trop quoi faire, semblaient se réveiller, se remémore-t-elle. Devant l'intérêt évident de la communauté, Edith Lucier s'est donc mise à multiplier les demandes de subventions. Elle, qui n'avait jamais mené un tel projet, allait devoir amasser 250 000 $. Le skatepark devait ouvrir en juin 2024, mais les demandes de subventions n'aboutissaient pas. À ce moment, je devais quitter Wemotassi, mais j'ai décidé de rester. Je ne pouvais pas partir avant de m'assurer que le projet se concrétise, raconte la femme de 29 ans. Sa patience aura porté ses fruits. Le 20 septembre 2024, avec le reste de la communauté, Edith Lucier a inauguré le skatepark qui jouit depuis d'une immense popularité. Petit à petit, les jeunes adoptent ce sport qu'ils connaissaient peu. Les jeunes qui vont au skatepark ne font pas tous du skate. Certains font juste glisser sur leurs fesses, regarder les autres, mais ça, on s'en fout. Ils bougent. Ils se font des amis. Ils apprennent de petites compétences qui feront toute la différence dans leur vie, se réjouit Edith Lucier. Un skatepark à Wemotassi. Le skatepark est en place depuis peu. Et déjà, les membres de la communauté constatent ses bienfaits. On remarque que les jeunes font moins de niaiseries, qu'il y a moins de vandalisme dans la communauté, explique Joanie A. Nechiche, dont la fille, Mykonis, 11 ans, fréquente depuis peu le skatepark. L'arrivée du skatepark permet à certains jeunes de s'adonner à des sports individuels pour la première fois. C'est le cas de Paige, 8 ans. Ça ouvre vraiment la porte à une clientèle différente. Ma fille n'est pas une joueuse de balle ni de soccer. Maintenant, elle pourra faire quelque chose qu'elle aime l'été, raconte sa mère, Jessica Volant. Sans même qu'on ait à lui poser la question, Jessica insiste sur un point. Parfois, ça prend le courage d'une personne pour réaliser nos rêves. C'est ce qu'Edith a fait pour nous, ici. C'était « Une enseignante et son ambitieux projet », un texte d'Éric Martel paru le 11 novembre 2024 dans La Presse.
Un cours de « Mauvaises nouvelles 201 » pour les médecins. Un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 17 novembre 2024 dans La Presse. Tic-tac, tic-tac. Nathalie Fradet avait l'impression d'entendre la minuterie d'une horloge lorsqu'elle a reçu, en 2021, l'annonce de son diagnostic de myélome multiple, un cancer du sang. Clairement, l'oncologue, tic-tac, tic-tac, avait du monde à passer dans sa journée, dit-elle. La rencontre a duré une vingtaine de minutes. Elle a reçu des explications très cliniques de la part de son médecin spécialiste, un scientifique extraordinaire, mais pas l'homme le plus chaleureux de la planète, selon elle. Voici ce que c'est, voici ce que ça fait, voici ce qu'on va faire, résume la femme de 58 ans. L'oncologue m'a dit, si vous voulez plus d'informations, Vous pouvez aller voir le site de Myélome Canada. C'est dans un dépliant de cet organisme qu'elle a appris que sa maladie était incurable. Je comprends que peut-être il y a des personnes qui ne veulent pas tout savoir d'un coup, dit Nathalie Fradet. Mais je pense que ça se demande à un patient. À quel point vous voulez savoir tous les détails? Elle aurait souhaité davantage d'empathie, de compassion et un peu de compréhension de sa réalité. Nathalie Fradet souffre depuis 36 ans de la maladie de Crohn. Ses médicaments commençaient à fonctionner. Elle ne faisait plus de crises sans arrêt. L'annonce de son cancer a tué tout espoir d'une fin de carrière sans être trop malade. Un cours 201 de la mauvaise nouvelle. Nathalie Fradet témoigne maintenant de son expérience devant des professionnels de la santé. Elle participe à une formation sur l'annonce de la mauvaise nouvelle conçue par le radio-oncologue Israël Fortin et d'autres médecins. Il s'agit, en quelque sorte, d'un cours 201 après le 101 appris sur les bancs de l'université, regarder le patient dans les yeux, être près de lui, lui accorder du temps et avoir à portée de main une boîte de mouchoirs. Le docteur Israël Fortin soutient que la formation vise à ce qu'on fasse une introspection de ce qu'on fait et de ce qu'on pourrait améliorer. Selon le docteur Fortin, qui exerce à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il faut laisser place à l'émotion lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Il lui arrive d'avoir la larme à l'œil, les yeux dans l'eau, quand il doit faire part d'une récidive à un patient. Dans ces moments difficiles, le non-verbal du professionnel est important, plus que les mots, estime le docteur Fortin. C'est ça qui va sceller l'alliance avec le patient. Il va sentir qu'on fait un dans cette situation et qu'on est avec lui. Un médecin qui fait des câlins. Après une douzaine d'années, la radio-oncologue Carole Lambert fait un câlin à la plupart de ses patients lorsqu'elle termine ses rencontres qui peuvent durer 75 minutes. C'est magique, dit la médecin spécialiste du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, CHUM, qui a conçu la formation avec le docteur Fortin. J'ai vu les liens avec mes patients changer quand j'ai commencé, moi, à ouvrir la porte. Elle cite l'exemple d'un patient grognon. À un moment donné, il m'a dit « C'est ça, docteur, vous ne pouvez rien faire pour moi. » Il était dans le négatif. Je lui ai dit « C'est pas vrai. » Puis je me suis levée, j'ai ouvert les bras et je lui ai dit « Je peux vous faire un câlin. » Ça l'a jeté à terre. N'est-ce pas trop de proximité? Un câlin peut rester très professionnel, répond-elle. Être professionnel, ça ne veut pas dire être froid et bête. Ça veut juste dire de faire son travail avec rigueur, avec humanité, avec toute l'éthique nécessaire, et d'être équitable, de savoir ce qu'on a à faire, de faire pour le mieux. La docteure Lambert avoue être extrême. Elle reconnaît que le système de santé met beaucoup de pression sur les médecins pour que ça aille vite. Ses étudiants apprennent un principe de base. Ce qui est important avec le patient, ce n'est pas de trouver la bonne distance pour se protéger, c'est de trouver la juste proximité pour être capable de l'aider au mieux et ne pas être envahi soi-même par trop de tristesse. Faire preuve d'empathie et d'humanisme ne coûte pas cher au système de santé, estime Eva Villalba, directrice générale de la Coalition Priorité Cancer au Québec. Mais une annonce faite de manière détachée, froide et rapide fait mal et ajoute au traumatisme. À ceux qui ne sont pas à l'aise de montrer leurs émotions, le docteur Fortin suggère de s'allier à une infirmière pivot lors de l'annonce d'une mauvaise nouvelle. Nathalie Fradet les invite à écouter en tout temps leurs patients, les experts de leur corps. 3 ans après son diagnostic, elle ressent toujours de la fatigue et des douleurs. Mais grâce à une greffe de cellules souches, aucune cellule cancéreuse n'est détectée dans son sang. Ça peut revenir n'importe quand, souffle la mère d'une fille de 23 ans. Ça peut revenir avec plus de force. J'essaie d'en profiter. Médecin et patient à la fois. Le docteur Jean-Pierre Routy, spécialiste en hématologie-oncologie au Centre universitaire de santé McGill, CUSM, a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2022. Est-il plus humain avec ses patients depuis? Probablement, avec certains ayant un problème de santé similaire au sien, estime-t-il. J'ai vraiment une complicité avec les hommes qui ont subi une chirurgie de la prostate, remarque l'auteur du livre « Intrigante prostate, un médecin face à son cancer », Flammarion 2024. Le docteur Routy comprend mieux ce que vivent ses patients lors des tests, radiographies, scans et examens d'imagerie par résonance magnétique. C'est beaucoup plus difficile ou pénible que ce que je pensais, relève-t-il. L'attente des résultats aussi. La fatigue est aussi plus longue que je l'imaginais. En savoir plus, source, Société canadienne du cancer. 2/5, proportion approximative des Canadiens qui recevront un diagnostic de cancer au cours de leur vie. Quelque 127 100 hommes et 120 000 femmes auront reçu un diagnostic de cancer en 2024. C'était un cours de mauvaises nouvelles 201 pour les médecins. Un texte de Marie-Ève Cousineau paru le 17 novembre 2024 dans La Presse.